France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le grand face-à-face avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, qui se moque de moi. Bonjour Natacha.
Bonjour,
ça
non,
commence
je ne me
bien
permettrai pas.
Parce que j'ai dit Vercingétorisque.
Mais oui, c'est très joli. Parce
et
qu'en
pas
effet...
X.
Voilà, mais on va prendre des risques
voilà,
cette année.
C'est très bien dit. Et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, le très bienveillant Gilles Finkelstein. Bonjour.
Moi, bonjour, et donc il ne s'est pas moqué.
Tout va bien Gilles?
Ça va.
Heureux de vous retrouver les amis. Question traditionnelle que je ne vous poserai pas. Avez-vous passé un bel été? Emmanuel Macron avait conseillé aux journalistes de se reposer pendant les vacances. Et il faut dire que c'était en pleine affaire de Rugy. Vous avez suivi ses conseils, Natacha?
Oui, très bel été, mais été très sec. Et je dois dire que j'ai passé mon été à attendre la pluie, à regarder le niveau des rivières en étant absolument effaré. Et je pense qu'il serait quand même temps de vraiment de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer.
Et tant qu'il pleuve.
Oui, mais bien sûr, c'est un enjeu majeur, il faut qu'il pleuve.
Alors le président de la République, lui, a-t-il vu la pluie? A-t-il passé un bel été? Il avait commencé son été avec la démission de François de Rugy. Un mois après, c'est la rentrée, après le G7 de Biarritz. Emmanuel Macron répondait en exclusivité lundi dernier aux questions d'Anne-Sophie Lapix dans le 20h de France 2.
Alors qu'est-ce que c'est un sommet utile? D'abord, le principe même d'avoir des discussions ouvertes entre les 7 principaux pays industrialisés qui partagent des valeurs démocratiques, c'est utile. Là, je crois pouvoir dire qu'on a parlé de tout avec beaucoup de liberté. On s'est parfois mis d'accord, d'autres fois non, mais ça, ça a une utilité. Parce que ça évite qu'on parte dans des chemins divers.
Avant de parler du fond des choses et de ce qui s'est joué au G7, il y a quelque chose d'étonnant dans la communication politique et dans la vie politique tout court. On part en été avec François de Rugy, l'affaire des homards, si mes souvenirs sont bons, du champagne et des intolérances alimentaires, une démission. On revient et c'est le président de la République en majesté, mise en scène en majesté, comme les institutions de la 5e République le lui permettent, qui s'impose. Comment expliquer ce qui s'est passé cet été, Natacha?
Oh, comment expliquer? Il y a une espèce d'immédiateté de l'actualité et du traitement de l'actualité par les médias qui donne cette impression de montagne russe, c'est-à-dire que les mêmes qui sont scandalisés par l'affaire de Rugy, qui disent « ça y est, il est mort », 3 semaines après, un mois plus tard, trouvent que c'est merveilleux, Emmanuel Macron est tout puissant. Bon, il faut se garder des excès et surtout réinscrire chaque commentaire, chaque jugement dans un temps long. Et or, évidemment, le rythme accéléré des chaînes d'information continue, des réseaux sociaux, rend beaucoup plus difficile cette juste mesure.
Gilles?
Oui. C'est juste, Natacha a utilisé une image météorologique pour parler de ses vacances. Si on regarde cette rentrée pour Emmanuel Macron, je crois qu'on pourrait dire c'est ciel bleu, nuages en formation.
Pourquoi en formation?
Alors d'abord, pourquoi ciel bleu? Il y a le succès diplomatique du G7 et je trouve la réussite dans l'explication pédagogique dans le journal de France 2 chez Anne-Sophie Lapix, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a une forme de pragmatisme sur les retraites avec l'ouverture en forme vis-à-vis de la CFDT. Si on ajoute à ça une économie française qui résiste plutôt mieux que beaucoup d'autres, avec un chômage qui baisse et une croissance qui se tient, une opinion qui remonte un peu et qui retrouve en gros en septembre 2019 le niveau de septembre 2018.
Ah, et donc enfin, il y a des facteurs objectifs, pas uniquement
oui.
Donc
et enfin,
le rythme médiatique.
Et enfin, des oppositions qui continue de se diviser, les Républicains à la enquête d'un leader, la France insoumise sur le fond et notamment sur l'islam, les Verts sur la stratégie, ça c'est le côté ciel bleu. Les nuages, ou les nuages en formation, il y a, je crois, des nuages internes avec le risque social sur la question des retraites qui reste devant nous, c'est un dossier qui est un dossier absolument majeur et très difficile. Il y a un risque politique avec des élections municipales qui ne sont pas simples et on voit, y compris La République En Marche, se diviser à Paris. Et puis il y a, je crois que c'est le plus important, un risque extérieur qui est un risque économique. On a vu cet été des turbulences très importantes sur les marchés financiers, l'inversion des taux et nos voisins qui sont tous, peu ou prou, en récession. Et je crois que c'est ça, le principal risque aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est ce qui dépend le moins de lui.
Natacha Polony.
Disons, premier point, que, en effet, sur la scène diplomatique, Emmanuel Macron est toujours bon. Il a ce sens du coup, non pas pour le coup médiatique, mais là du coup qui permet de faire avancer les choses. Moi, ça fait 2 ans que nous faisons cette émission et 2 ans que, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement diplomatique, je constate en effet que ça, il sait faire. La question étant de savoir ensuite comment il traduit cela dans une politique, notamment dans une politique intérieure ou une politique européenne, parce que on le voit avec le traité sur le Mercosur, que Emmanuel Macron, parce que il y a une crise diplomatique avec Jair Bolsonaro, en profite pour remettre en cause ce traité, c'est très bien. Mais une semaine avant, ses ministres nous expliquaient qu'il fallait absolument signer ce traité et que lui-même avait expliqué que c'était un bon traité. Donc un petit peu de cohérence en la matière serait tout de même appréciable. Mais ensuite, là où Gilles a tout à fait raison, c'est de souligner en effet le risque de tout simplement de krach boursier, le risque sur l'économie internationale, parce que cette économie n'a absolument pas tiré les leçons de la crise de 2008, parce qu'il y a des facteurs de tension qui sont très dangereux. Et d'ailleurs, il faut s'intéresser, en effet, Gilles le citait, à la question des taux négatifs, qui d'abord sont un signe d'absence de confiance dans l'avenir, et puis surtout qui sont en train de bouleverser la donne économique. Le concept d'épargne est en train de s'envoler. C'est quelque chose de majeur, et c'est une aberration économique. Enfin, dernier point sur la scène nationale, il suffit de se promener un petit peu partout en France et de discuter avec des gens pour comprendre que les facteurs qui ont provoqué l'explosion de l'an dernier sont toujours là et que certains citoyens, beaucoup hélas, ont nourri une rancune supplémentaire du fait de la façon dont a été soldée la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que la colère, elle est toujours sous-jacente, tout ça est toujours là.
Gilles, je partage l'idée que sous la cendre, il y a encore des braises, et que donc rien n'est définitivement, évidemment, acquis pour Emmanuel Macron sur ce terrain-là, en dépit des 10, 12, 15 milliards qui ont été injectés et dont on voit d'ailleurs de manière paradoxale les effets sur la croissance. Une des raisons pour lesquelles la France tient mieux, c'est grâce aux gilets jaunes et aux mesures qui ont été annoncées.
Ce qui prouve que l'austérité est une mauvaise idée.
Sur l'autre point, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait toujours été bon sur la scène internationale.
Très souvent.
Il a payé souvent. Mais le pari qu'il a fait de Donald Trump au début était un pari qui a été raté. Les ouvertures qu'il a fait envers Angela Merkel et l'Allemagne ne se sont pas traduites.
Ça, là, c'est la scène européenne. Et là, en effet, c'est
qu'il a eu à la fois, comme souvent, de l'audace sur la forme, y compris en faisant venir le ministre des Affaires étrangères iranien, de l'audace sur le fond avec une inflexion par rapport à la Russie, une forme d'opportunisme aussi, vous l'avez dit, sur le Mercosur, mais je trouve qu'il a eu plus d'habileté, qu'il a gagné en expérience, 2 ans presque 2 ans à la tête de l'État. Je trouve qu'il a mieux géré des personnalités qu'il connaît et un sommet qu'il devait organiser qu'il ne l'avait fait auparavant.
Natacha Namo.
Pour ma part, ce qui m'intéresse, alors d'abord, en effet, il n'a jamais réussi à transformer cette habileté en capacité à instaurer un rapport de force sur la scène européenne avec l'Allemagne. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, on va voir. Simplement, moi, ce que je trouve intéressant dans sa posture, pourquoi je dis qu'il a réussi cela, c'est tout son discours, notamment son discours aux ambassadeurs, c'est-à-dire toute cette prise de conscience, pour l'instant ce ne sont que des mots, de la nécessité absolue de sortir l'Union européenne de l'impérialisme américain et de cet étau entre l'impérialisme américain et l'impérialisme chinois. Cette vision de la place de la Russie, Emmanuel Macron a tout de même osé critiquer ce qu'il appelle l'état profond en France, c'est-à-dire le néoconservatisme de certains diplomates du Quai d'Orsay, en même temps que la puissance de la technostructure, notamment celle de Bercy. Je trouve ça intéressant. Après, il faut transformer ça en actes. Les mots, c'est toujours très facile.
La France a donc finalement désigné celle qui sera commissaire européen française et donc à Bruxelles, Sylvie Goulard, ancienne du Modem, ancienne ministre qui a dû démissionner. C'était la première du premier gouvernement Macron à démissionner et 2 ans après, elle se retrouve nommée à ce poste important. Gilles Damo, que pensez-vous de cette nomination ?
Je crois qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être cumulativement réunies pour être un bon candidat à la Commission européenne. Il faut une compétence technique reconnue. Il faut une surface politique importante et il faut une image personnelle irréprochable. Sur le dernier point, je ne suis pas sûr sur le second. Sur le dernier point, en tout cas, je crains qu'il y ait eu une méconnaissance ou une forme de désinvolture par rapport à ce qu'est la procédure de nomination des commissaires européens. Maintenant, vous allez avoir des auditions, et les auditions au Parlement européen, ce sont des vraies auditions. Il va falloir que Sylvie Goulard s'explique, non seulement sur l'affaire du MoDem pour laquelle elle a démissionné, mais y compris sur les rémunérations qu'elle a touchées lorsqu'elle était députée européenne de la part d'un think tank américain. Et là, il va falloir qu'elle donne des explications jusqu'au bout, et je pense que ça ne va pas être si facile.
Natacha ?
Non mais j'irai plus loin. C'est une aberration. Emmanuel Macron réussit son G7, prend la main dans un contexte européen où en effet l'Allemagne est affaiblie et où le reste de l'Europe attend et est en situation très peu stable. Il aurait la possibilité de jouer quelque chose et là tout à coup, il se tire une balle dans le pied. En effet, Sylvie Goulard est fragilisée par les affaires qui l'entourent, mais pas seulement. C'est aussi un choix qui, à mon avis, est une erreur. Pourquoi ? Parce que je soulignais le discours d'Emmanuel Macron aux ambassadeurs sur l'indépendance nécessaire de l'Union européenne, sur la notion de puissance, mais Sylvie Goulard a toujours soutenu une Union européenne qui, justement, est celle qui n'avait aucune volonté de puissance, aucune capacité d'action. Et elle est une personnalité politique profondément fédéraliste qui explique qu'elle se sent plus européenne que française. Alors que l'Allemagne a toujours tenu tous les postes clés dans l'Union, ce qui lui permet de faire valoir ses propres intérêts. Nous, Français, nous continuons à être pieds et poings liés en nommant surtout des personnalités qui ne vont pas défendre les intérêts français. Parce que ce serait pas bien, il faut prouver qu'on est des bons Européens. C'est idiot, parce que l'Allemagne, pendant ce temps-là, a affaibli l'Union Européenne.
Juste un mot. Nul ne conteste la compétence technique, la connaissance des dossiers européens et des rouages européens de Sylvie Goulard. On doit remarquer quand même la lenteur de la justice française. Sylvie Goulard a démissionné il y a maintenant fort longtemps.
Ouais, il y a 2 ans.
À peu près rien ne s'est passé. Ce n'est pas acceptable. En revanche, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Natacha. Le commissaire européen français n'est pas là pour défendre les intérêts de la France.
Mais bien sûr, officiellement.
Et c'est vrai de l'ensemble des commissaires qui sont là pour défendre l'intérêt général européen. Après qu'il y ait
nous avons déjà débattu de cette question.
Après qu'il y ait une concordance de vue entre un pays et son commissaire, c'est évidemment mieux. Mais si la commission n'était que l'addition de défense d'intérêts nationaux, eh ben, elle n'aurait plus de raison.
Nous sommes bien d'accord, mais on n'est pas obligé de dire qu'on ne se sent pas français mais européen. S'il y a un équilibre à trouver.
Là, toujours. Vous êtes d'accord.
Toujours.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Nous avançons sur un nouveau programme législatif, sur la sécurité, les hôpitaux et sur le financement de l'éducation. Et il y aura tout le temps qu'il faut des deux côtés avant ce sommet européen crucial du 17 octobre. Suffisamment de temps pour que les députés débattent, pour le débat sur l'Union européenne, sur le Brexit et sur les autres sujets.
C'était une déclaration du Premier ministre britannique Boris Johnson à la télévision ce jeudi. Nouvel épisode dans le feuilleton du Brexit. Nous allons devenir des experts des institutions du Royaume-Uni. Alors le Parlement britannique est donc suspendu du 9 septembre au 14 octobre de manière exceptionnelle. On présente ça comme un coup de force du Premier ministre britannique. Les travaux du Parlement ne reprendront que 15 jours avant la date du Brexit. Au fond, c'est comme si Boris Johnson voulait aller vers cette solution d'une sortie de l'Union européenne sans deal, Gilles.
C'est probable. Il sait qu'il a une majorité très fragile, il a une voix de majorité, et il sait que la majorité du Parlement, elle l'a voté à plusieurs reprises les mois précédents, est hostile à une absence d'accord avec une sortie sans accord. Donc, il a voulu éviter d'avoir une bataille sur les deux fronts, un front interne avec son Parlement et en pleine négociation avec l'Union européenne. Et donc, il a fait cette manœuvre, qui est une manœuvre inédite dans l'histoire parlementaire britannique. Je crois que ce qui est en jeu avec cette histoire, il y a deux choses. Il y a d'abord une grave crise démocratique, parce que le cœur de la démocratie britannique, plus qu'ailleurs, c'est le Parlement. Et lorsque l'on voit le Speaker, le président de la Chambre des communes, qui est toujours tenu, qui est conservateur, mais qui est toujours tenu à un devoir de neutralité, parler d'outrage constitutionnel, on mesure l'ampleur du séisme. Mais il y a un autre élément sur la crise démocratique, c'est que la spécificité du Royaume-Uni, c'est que c'est un pays qui n'a pas de constitution écrite. C'est un pays qui vit avec des règles non écrites, des précédents, des traditions. Et lorsque ces règles, ces précédents ne sont plus respectés, c'est particulièrement problématique. Et puis, ce qui est en jeu, deuxièmement, c'est pas seulement une crise démocratique, c'est une crise nationale, une crise de l'unité britannique. Elle était déjà en cause avec le Brexit. On voyait que aussi bien l'Écosse, d'une certaine manière le Pays de Galles, l'Irlande, évidemment, on voyait les difficultés avec l'Angleterre. Mais par ailleurs, l'unité britannique, elle est au Parlement. Et donc, la suspension du Parlement, je crois que ça met en cause à la fois la démocratie et l'unité britannique. Et donc, c'est très sérieux.
Natacha.
Oui, sur la question de l'unité britannique, en effet, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais pour revenir sur ce que vous disiez avant, Gilles, vous dites que le Parlement britannique est hostile à une sortie sans accord. C'est vrai. Mais comme ce Parlement a été incapable, justement, d'accepter un accord, de se mettre d'accord, on ne sait toujours pas pour ou sur quoi le Parlement britannique peut s'entendre. Et c'est le problème depuis 3 ans. Or, c'est tout le paradoxe et tout le danger de cette situation, c'est que Boris Johnson se présente comme celui qui, in fine, parce que les parlementaires ne peuvent pas s'accorder, va appliquer tout simplement le vote des citoyens britanniques. Et nous voyons dans ce moment, vous disiez une crise démocratique, mais la crise démocratique, il faut bien la définir. C'est une crise de remise en cause partout en Europe de la démocratie parlementaire représentative. Pourquoi ? Parce que depuis déjà quelques années, même quelques décennies, les représentants se sont peu à peu détachés des citoyens. Je pense que, en fait, ce que nous voyons un peu partout, c'est la fin d'un cycle qui est un cycle d'environ 40 ans, c'est le cycle néolibéral. Et ce néolibéralisme, cette dérégulation, a petit à petit fait émerger des élites politiques, économiques, qui se sont détachées, qui n'ont plus tenu compte de la volonté des citoyens un peu partout. Et c'est cela que nous voyons se jouer, c'est-à-dire que les parlementaires sont en majorité hostiles à une sortie sans accord, mais de toute façon, ils ne se sont pas mis en quatre suffisamment pour appliquer ce vote des citoyens, et ils ont freiné cette possibilité.
Les citoyens ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais ils n'ont pas voté deal ou pas deal.
Mais bien sûr, mais ils ont voté pour sortir. Or, cette sortie, elle est bloquée aussi bien du côté de l'Union européenne. Bon, Theresa May a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'appliquer ce vote, et elle l'a fait de façon parfois héroïque. Simplement, si vous n'avez pas des représentants qui tiennent compte exactement de ce que veulent les citoyens, vous fracturez cette démocratie. On le voit aussi en Italie.
Gilles.
Qui est une crise de la démocratie représentative au Royaume-Uni, peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais dans toute l'Europe et même dans tout le monde occidental, il n'y a aucun doute, on en a débattu depuis des mois et des mois. En revanche, il n'est pas anecdotique de savoir ce que le peuple britannique veut réellement. Il a voté pour le Brexit, mais il y a plusieurs sortes de Brexit. Le fait que les Britanniques sortent avec un accord, quel accord ou sans accord, c'est très différent. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui ce que veut dire appliquer le vote des Britanniques. Peut-être faudrait-il leur redonner la parole. Enfin, un tout dernier point, il y a une forme d'ironie quand même. À voir les Français s'épouvanter devant le coup de force parlementaire de Boris Johnson quand on voit la manière dont, non pas pendant quelques semaines, non depuis des décennies, nous traitons notre propre Parlement.
Exactement.
Et tout l'arsenal qui est déployé pour pouvoir le museler.
Alors justement, puisque vous en parliez, Natacha, de l'Italie et des difficultés ou des aléas de la vie des démocraties parlementaires, on apprenait donc que Giuseppe Conte va former un nouveau gouvernement de coalition. Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, avait fait exploser la coalition au pouvoir pour obtenir des élections, pour asseoir davantage encore son poids dans le jeu politique italien. Il a perdu son pari. Ça, c'est de l'ordre de la trahison de ce qui s'est joué dans les urnes pour vous, Natacha?
Alors, je ne parlerai pas de trahison de ce qui s'est joué dans les urnes, je parlerai de jeu dangereux de la part de tout le monde. Parce que si Matteo Salvini apparaît aujourd'hui comme le perdant de son coup de poker, je crains hélas que ça ne le renforce à terme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le mouvement 5 étoiles s'est tiré une balle magistrale dans le pied en faisant le contraire de ce pourquoi ses électeurs avaient voté pour lui. C'était un parti qui voulait en finir avec les vieilles alliances du vieux monde politique. C'était un parti qui s'appuyait sur ce que certains appellent un populisme de gauche, en tout cas la remise en cause du système économique, institutionnel, politique tel qu'il fonctionnait, et donc un parti qui remettait en cause aussi le fonctionnement de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Eh bien, ils viennent de s'asseoir sur tout ça pour faire alliance avec un parti qui est un parti social-démocrate classique. Donc, ils perdent leur raison d'être. Donc, la contestation du système. Eh bien, le monopole en revient, hélas, à Matteo Salvini. Je pense que c'est profondément aberrant de voir en plus Giuseppe Conte, qui a pu donc être le président du conseil d'une coalition de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles, et qui tout à coup peut être président du conseil d'une autre coalition qui va mener une politique radicalement différente. Tout ça est aberrant, donne une image tragique de la démocratie représentative parlementaire, et je crains que ça ne se voit dans les années à venir.
Gilles Finkelstein.
Oui, c'est aberrant, c'est tragique et c'est dangereux. Si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut repartir du vote des élections législatives de mars 2018. Il n'y a pas eu de trahison parce qu'il n'y a pas eu de message clair. On s'est retrouvé avec ce que l'on peut appeler un gouvernement des gagnants, ceux qui avaient un peu gagné à l'époque, qui était la Ligue, parti d'extrême droite, et ceux qui avaient beaucoup gagné, parti populiste inclassable, le mouvement 5 étoiles. Au prix d'une trahison, pour le coup, de la Ligue qui était en alliance avec la droite classique, au prix d'une naïveté du mouvement 5 étoiles qui a cru pouvoir faire alliance avec la Ligue, et au prix d'un compromis des uns et des autres qui se sont retrouvés avec un Premier ministre qui était un universitaire qui n'était ni de la Ligue ni du mouvement 5 étoiles. Un an après, c'est ça qui est très important à comprendre, il y a eu un renversement complet du rapport de force. Ceux qui avaient un peu gagné la Ligue se sont retrouvés très haut aux élections européennes, avec plus de 30% des intentions de vote. Et donc Salvini a voulu, je reprends sa formule, obtenir les pleins pouvoirs dans la mémoire italienne. Ce n'est pas rien en provoquant des élections anticipées. Et donc là, on se retrouve devant une situation très classique. Le Parti démocrate a fait le mouvement, Matteo Renzi le premier a dit « on peut discuter et on peut faire l'alliance avec le mouvement 5 étoiles ». Évidemment, ça va être très compliqué. Le risque, c'est que effectivement, dans un an, dans deux ans, eh bien, ce soit Matteo Salvini qui aujourd'hui est affaibli, qui aujourd'hui a arrêté son coup, eh bien, en tire les maillons du feu. Donc, c'est pas seulement bâtir une alliance défensive. Il faut que cette année, ces deux années, je ne sais pas combien de temps ça va durer, eh bien, elle soit profitable pour les Italiens et que notamment dans les relations avec l'Union européenne, les choses s'améliorent. Et c'est vrai sur l'économie, mais c'est vrai surtout sur la question migratoire où les Italiens, à raison, ont eu le sentiment d'être abandonnés.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Voilà, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale.
C'était Nicolas Sarkozy qui était invité à l'université d'été du MEDEF ce jeudi 29 août et un commentaire, un de plus négatif, critique contre Greta Thunberg, cette jeune Suédoise si sympathique, si souriante, tellement originale dans sa pensée, disait l'ancien président de la République, puisque Greta Thunberg vient d'arriver à New York, accueille incroyable et chaleureux avec une flottille de bateaux qui est venue accueillir son voilier avec lequel elle traversait l'Atlantique pour se rendre aux États-Unis. Pourquoi tant de haine, Gilles, contre cette jeune femme?
Il y a
cette jeune fille.
Une multitude de procès qui lui sont intentés. Il y a un procès en incompétence, elle viendrait prendre la place des experts, on l'a vu lorsqu'elle est venue à l'Assemblée nationale. Un procès en inexpérience, elle est jeune, qu'elle retourne à l'école. Un procès en incohérence, si elle voyage en bateau, mais ses équipes vont aller en avion. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris. Moi, je n'ai pas une passion pour Greta, mais je suis surtout contre ceux qui sont contre. Et donc, je trouve que là, dans les formules de Nicolas Sarkozy, il y a une forme de mépris, que ce procès souvent est infondé. Elle est beaucoup plus robuste sur le fond qu'on ne le croit. Et qu'il y a surtout, et c'est ça qui me dérange en fait profondément, une forme de procès hypocrite. On s'attaque au messager, alors qu'en fait, ce que l'on conteste, c'est le message. Et donc, c'est la question l'importance, l'urgence de la question environnementale.
Vous vous sentez visée, Natacha, par ce que vient de dire Gilles ?
Non, pourquoi ?
Non, mais en l'occurrence, parce que vous avez été critique sur
Greta Thunberg. Sans mépris, une critique tout simplement parce que je pense en effet qu'il y a des engouements médiatiques qui me semblent moins intéressants que des réflexions sur le fond. Donc arrêtons avec cette idée de haine partout. Il n'y a pas de haine à critiquer. Il peut y avoir des gens qui sont excessifs, mais une critique justifiée de la question de savoir comment on traite les problématiques essentielles qui sont les problématiques écologiques me semble nécessaire. Alors que Nicolas Sarkozy fasse son spectacle, en effet, pour maquiller le fait qu'il n'a strictement rien fait pour l'écologie, et que son bilan est dramatique à part un supposé Grenelle de l'environnement, ça c'est une chose. Mais après, on peut essayer de raison garder, trouver que à partir du moment où Greta Thunberg est invitée par les grands de ce monde pour parler, il y a quelque chose d'un petit peu gênant, c'est-à-dire que finalement on se demande qui elle dérange réellement et quels sont les intérêts qu'elle met en danger, si elle est adulée par Davos, les puissances financières et les parlementaires qui ne font pas tellement avancer la cause écologique. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Et il me semble que les engouements émotionnels qu'elle peut susciter peuvent éventuellement être intéressants uniquement si ensuite ils sont transformés en véritables politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait concrètement, politiquement, quand il y a des intérêts contradictoires.
Un mot avant d'accueillir Laurent Geoffrin.
Oui, Nicolas Sarkozy non seulement n'a rien fait, mais 10 ans après, manifestement, n'a rien compris non plus.
Ah non, ça, on est bien d'accord.
Quant à Greta, elle joue un rôle utile si elle
Cela étant, il a été largement applaudi par les patrons qui assistaient à son discours.
Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle. Oui. En plus, c'est d'autant plus paradoxal que beaucoup d'entreprises jouent un rôle très utile et ont pour le coup, beaucoup changé leur mode de production et ont tenu compte de l'environnement.
Donc, oui, enfin, on est quand même loin du compte de ce point de vue-là.
Évidemment, mais elles sont souvent plus en avance qu'on ne le croit, en tout cas ont plus bougé. Là où Greta peut jouer un rôle utile, c'est en tant qu'éveilleur de conscience, donc ça serait très bien. Après, c'est moins utile si les débats autour de sa personnalité viennent empêcher les débats de fond sur les priorités.
Oui, il y a tout de même là-dedans, une fois de plus, le travers de l'époque qui est la personnalisation et le narcissisme outrancier. C'est pour ça que je pense qu'il faut replacer la question sur le plan politique, c'est-à-dire quelles sont les politiques efficaces, utiles, jusqu'où va-t-on dans l'idée d'une forme de décroissance ? Est-ce qu'on accepte de remettre en cause le consumérisme ? Tous les jeunes qui aujourd'hui sont profondément enthousiastes face à Greta Thunberg sont forcément et évidemment très sympathiques et intéressants dans cette démarche. Après, la question est de savoir, par exemple, comment ils utilisent les réseaux sociaux, sachant que Internet, aujourd'hui le numérique, est le plus gros consommateur d'énergie. Il y a des enjeux majeur de ce point de vue-là.
On peut envoyer un cœur, un emoji cœur avec Greta Thunberg grâce aux réseaux sociaux. Tout de suite, le grand face-à-face continue avec le débat